cette conférence, tout d'abord pour amender un peu le titre qui avait été déterminé, qu'on ne m'en veuille pas, j'en étais partiellement l'auteur, et le titre qui vous a convoqué était le suivant, la vie éternelle, ultime espérance, point d'interrogation. Et je dois vous dire qu'en préparant cette table ronde, je me suis demandé s'il n'aurait pas mieux valu choisir pour intituler « La mort, occasion d'espérer la vie éternelle ». Et je reconnais très volontiers que cette sentence peut être perçue comme tout à fait paradoxale, « La mort, occasion d'espérer », tant il est vrai que la mort est appréhendée par beaucoup comme précisément l'échéance redoutable qui ébranle puissamment, voire même qui interdit tout espoir. Quand on ouvre le livre de Job, on voit ce long cheminement intérieur de cet homme profondément éprouvé. Vous savez, dès le début, il perd l'intégralité de ses enfants, si j'ai bonne mémoire, après avoir perdu l'intégralité de ses bêtes. Il est atteint par une sorte de maladie qui s'annonce incurable et qui l'expose partout à la mort, à sa propre mort. Et il désigne la mort, dans cet esprit troublé qui est le sien, comme étant la reine des épouvantes. Les vieilles traductions disent la reine des épouvantements. Cette dernière est souvent présentée, vous l'avez tous déjà vu, contemplée sur une danse macabre médiévale, sous les traits d'un squelette qui tient en main une faux et qui se plaît à tailler encore et toujours, à infliger des coups clairs dans l'espèce humaine. La mort, et singulièrement celle de l'innocent, d'ailleurs, est ce qui retient nombre de personnes d'espérer en Dieu et souvent même de croire en lui. On se souvient peut-être des mots d'Ivan, ce personnage de Frère Karamazov, qui dit ceci: si la volonté divine implique le supplice d'un enfant par une brute, alors je lui rends mon billet. Et je lui rends mon billet. De fait, j'avoue pour ma part avoir toujours été un peu circonspect devant un texte, je suis sûr que tous vous avez déjà entendu, un poème, La mort n'est rien. C'est un texte qui est souvent lu à l'occasion des obsèques, et en vertu de sa qualité littéraire, je reconnais volontiers, on a pu pouvoir en imputer la paternité à Charles Péguy, voire même à Saint-Augustin. Alors, il n'en est rien, j'ai fait ma petite enquête, et je crois même en réalité que ces deux grands personnages-là, Péguy et Saint-Augustin, n'auraient pas volontiers accepté la paternité du titre lui-même, la mort n'est rien. Loin de n'être rien, comme le croyait et le clamait Épicure, par exemple, au prétexte que tant que nous sommes en vie, la mort n'est pas, et lorsque la mort est advenue, nous ne sommes plus. Hein, donc il affirme qu'elle n'est pas grand-chose, alors qu'en réalité, elle est bien quelque chose, et tous, je pense, nous le savons, parce que tous nous portons nos deuils. Elle est la mort, elle est le creuset d'une rude bataille. Et dans cette séquence si belle que nous chantons quotidiennement, au moins nous récitons quotidiennement pendant les messes de l'octave de Pâques, Victime et Pascal de la messe, voilà ce que nous disons, voilà ce que je vais permettre de vous chanter, et en latin encore. Je sais que nous sommes encore plongés dans le carême, enfin, au bout de la lumière déjà. Mors et vita duello, conflixe et mirando. La mort et la vie se sont affrontées en un duel prodigieux. Comme tout cela est vrai, que la mort soit l'occasion d'un puissant affrontement apparaît dans le nom qu'on donne au moment qui précède la mort, vous aurez noté l'agonie, agonia en grec, signifie le combat. Et pour ce qui concerne ce qui suit immédiatement la mort et qui peut durer longtemps, on parle du travail du deuil. Et en latin, le terme tripalium, qui a donné travail, signifie outil de torture. Donc oui, violence il y a. La mort est en jeu d'un combat. Et nos deux invités de ce soir, eh bien, ont acquis la conviction qu'en dépit, ou pour mieux dire, au travers de ces conditions prédites, peut éclore l'espérance. Ils ont eu la délicatesse d'accepter d'en rendre compte devant nous et nous en sommes très profondément reconnaissants. Chacun d'eux le fera à sa manière, fort d'une expérience suffisamment longue, je crois, pour que la conviction qu'ils partagent ce soir ne soit pas illusoire. Christian Caquet, je commence par vous. Vous travaillez depuis 30 ans, semble-t-il, peut-être même un peu plus, dans ce qu'il est convenu d'appeler les pompes funèbres. Et à la demande du cardinal Jean-Marie Lustiger, qui était alors archevêque de Paris, vous avez accepté de fonder, en 2000, je crois, le service catholique des funérailles, qui nous fait la grâce, du reste, d'intervenir régulièrement dans notre paroisse, puisqu'une antenne de ce service se trouve à Boulogne. Dans votre livre « Vivre en mortel », qui a été publié aux éditions Salvator en 2021, vous écrivez ceci « Je ne suis pas dépositaire d'un savoir, sous-entendu sur la question de la mort, tout au plus au contact des personnes en deuil, au long du parcours des funérailles, ai-je reçu la force de témoigner que la mort blesse les êtres humains, mais aussi leur ouvre un chemin possible de croissance. » Fin de citation. Donc, vous vous définissez comme quelqu'un qui n'est pas dépositaire d'un savoir, mais qui a une expérience, qui est un témoin. Permettez-moi cependant, après avoir parcouru quelques-uns de vos livres, d'être certain, pour ma part, que votre parole est pétrie d'un riche savoir. Quant à vous, donc Paul Préau, vous avez été ordonné prêtre en 1989, ce qui fait de vous un ancien pour les quatre prêtres de la paroisse qui sont ici. Et vous êtes depuis 2010 modérateur général, c'est-à-dire, pour le dire brièvement, le patron de la communauté Saint-Martin. Mais ce qui nous vaut votre présence ce soir, c'est avant tout le fait que vous ayez été 15 ans durant, d'abord chapelain, puis recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montlignon, qu'un bon nombre d'entre vous connaissez, dans l'ordre, qui fut érigé à la fin du XIXe siècle, spécialement dédié à la prière pour les âmes du purgatoire, et où sont accueillies notamment les personnes en deuil. Vous êtes par ailleurs docteur en théologie, vous avez enseigné au séminaire, et je suis bien renseigné, de votre communauté plusieurs disciplines, dont l'eschatologie, terme un peu barbare qui désigne en fait les considérations théologiques sur les fins dernières, je me souviens des cours. Et puis la sotériologie, c'est-à-dire la théologie qui est relative à la question du salut. C'est donc au double titre de théologien et de pasteur que, pour votre part, vous intervenez ce soir. Mon introduction n'était que trop longue, chers amis. Elle était faite pour aiguiser votre espérance. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et de laisser enfin la parole à nos deux intervenants, je précise que des manières vont circuler parmi vous, dans lesquelles vous pourrez déposer, si vous le souhaitez, des questions pour aller sur le thème de ce soir, questions qui remonteront et qui seront par une équipe de spécialistes qui va être de notre cher curé, qui seront lues et qui pourront ensuite être posées, alors pas toutes, si vous en doutez, à nos invités. Je commence donc par m'asseoir et vous pose cette première question que peut-être vous trouverez ou que l'Assemblée d'assistance trouvera un peu générale, mais enfin, libre à vous d'en restreindre le spectre, qui est celle-ci. Seriez-vous d'accord pour faire un état des lieux de l'Occident face à la mort à l'époque contemporaine?
Oui, mais je pense que c'est très essentiel de partir de cette question-là, parce que sinon on oublie de dire que nous sommes, depuis le milieu du XXe siècle, dans une société que d'aucuns a qualifiée de société de la mort interdite. C'est-à-dire qu'en fait, on a assisté, pour les plus grands lecteurs parmi vous, il y a bien sûr la somme de Philippe Ariès sur la mort en Occident qui illustre bien. En fait, Ariès, qui est un homme sérieux, dit carrément on a assisté à cette période à une révolution du rapport à la mort. Alors un historien qui parle de révolution, en général, c'est pas à la légère. Et de fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, alors bien sûr, c'est pas de se dire que dans le monde qui précède, la mort était une réalité, youpla boum, on va mourir, et ça ira bien. Non, c'était bien sûr de toujours la grande blessure de la vie humaine, mais on l'avait davantage culturellement apprivoisé. Alors que soudain, dans cette vie, enfin soudain, et si, c'est très rapide la façon dont les choses se mettent en place, notamment en vrac, le rapport à la médecine curative et à tous ces succès qui fait que la mort s'apparente de plus en plus à un échec, l'évolution de la cellule familiale, la sécularisation de la société en général, tout ça aggloméré fait qu'on ne sait plus gérer la mort et les morts, et on transfère ça à des professionnels, des spécialistes, et puis surtout, on place toutes ces réalités aux périphéries de la vie sociale, dans des lieux dédiés, chambres funéraires, chambres mortuaires. Le problème des chambres mortuaires, c'est la terminologie qu'on emploie pour les hôpitaux, c'est que l'hôpital est le lieu où on combat la mort, et c'est le lieu où elle se concentre. Donc là, il y a un truc un peu schizophrène que nous, hommes et femmes de funéraires, on vit tous les jours, c'est-à-dire que on sent bien qu'on n'est pas tout à fait bienvenu dans ces lieux, sauf si on est dans un centre de soins palliatifs, et encore.
Pour ne pas partir d'une petite expérience que j'ai connue à Montluçon, qui est assez symptomatique de l'état de la mort aujourd'hui. Donc, vous savez qu'à Montluçon, c'est un lieu qui accueille, mais c'est aussi un lieu où on envoie les prêtres et les laïcs en mission dans les paroisses, dans les écoles. Et donc, je suis envoyé dans une école primaire, et là, la directrice me dit « Ah non, c'est au moment de tout ça. Non, vous pouvez parler, vous ne parlez pas de la mort. » Je dis, bon, mais c'est un peu le sujet. Ah non, parce que les enfants vont avoir peur. Donc je me suis dit, c'est symptomatique. Alors, j'ai parlé un peu avec elle, je me suis rendu compte que souvent, les adultes projettent derrière leur propre peur sur les enfants. Et je me suis surtout rendu compte que la mort était un peu. Était devenu un monsieur fameux. Alors qu'avant c'était plutôt la sexualité, et qu'aujourd'hui la sexualité on en parle et on l'étale, aujourd'hui la mort, il faut l'aseptiser, il faut la sortir du champ de la vie. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la mort, c'est de bien vivre. Et donc on crée une dichotomie entre être vivant, être. Dans le dynamisme de la vie. Et puis, ce qui pourrait être considéré, mais on préfère ne pas le voir, et on préfère utiliser d'autres mots. D'ailleurs, je crois que les services d'obsèques, je me rappelle de cela, aux États-Unis, avaient effacé le mot death pour juste dire que ce n'est plus un mot tolérable. Donc on a éliminé, repoussé cette réalité. Et je me rappelle une autre expérience, c'était dans le cas des obsèques justement, et je me rappelle d'une maman, parce qu'on enterrait la grand-mère, qui avait dit « les enfants ne viendront pas, parce que pour eux, c'est trop dur. C'est trop dur que de vivre cette célébration. » Je l'ai écouté, mais évidemment j'ai accueilli sa souffrance, puis après je lui ai dit « ne comprenez pas que c'est justement par le rite, par les rituels, qu'on va pouvoir l'aider à entrer dans une compréhension, dans une... Est-ce que vous avez l'impression que vous allez leur voler quelque chose de leur grand-mère ? Voilà. Et ça vous dit un petit peu, je ne sais pas si c'est une réponse intellectuelle, mais au moins expérimentale, sur cette mort qui, bien moins on y pense, et on a l'impression que moins on y pense, et mieux on vit.
Et paradoxalement, nous sommes entrés, parce que vous avez dit j'ai 30 ans de pompe funèbre, donc j'ai un peu de recul, dans un monde, je situe ça depuis une dizaine d'années, où finalement nous vivons, qu'on le veuille ou non, dans un contexte où on évoque quotidiennement la possibilité, pour ne pas dire la probabilité, que la vie sur Terre, à terme, est menacée. Donc si on veut faire l'économie de la question du rapport à la mort, moi je vous dis que dans les années qui viennent, elle va de plus en plus s'imposer à nous. Et que tout l'enjeu est de savoir qu'est-ce que nous faisons de cette menace. Est-ce que nous, chrétiens, on va contribuer ou pas à faire vie de cette menace ? à rajouter de la vie, non pas des jours à la vie, mais de la vie au jour. Enfin, parce que, voilà, après, on ne va pas faire un débat sur l'écologie, c'est pas le jour, mais qu'on y croit ou pas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui est de l'ordre d'une apocalypse à la régie. Moi, je suis très habité par ça. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je ne peux pas ne pas nommer ce que je veux. Quand j'entends parler d'hommes, de jeunes couples qui renoncent à la procréation, je dis c'est quand même c'est une violence absolue du point de vue de la confiance dans la vie. Et donc, voilà, il faut situer dans ce continuum, après-guerre, le tableau qui s'installe, etc. Mais maintenant, c'est très différent. C'est très différent. On est né, parce que la mort, ça s'apprend au lait maternel. On n'a pas tous le même âge, en fait. On a évolué dans une société de la mort interdite, mais aujourd'hui, et demain plus encore, cette question va de plus en plus s'imposer à nous. Et que nous serons confrontés à ces phénomènes de repli, ou au contraire, d'ouverture. Parce que, si vous voulez, je vais relier en un mot, c'est ce que je dis là aussi, à cette incroyable société dans laquelle elle est en train d'évoluer du point de vue d'une sorte de libération, par exemple, pour ce qui est de la dimension économique, pour ceux qui s'y intéressent. Incroyable, les start-up de tous les côtés, et puis pas que pour faire l'argent, aussi pour être plus généreux, pour s'intéresser aux plus pauvres, etc. On est dans un bouleversement Internet. Bon, donc c'est pas tout noir, mais en tout cas, la fin, la dimension de la fin FIN, va de plus en plus devenir un quotidien face auquel il faut réagir.
Merci beaucoup. Du reste, dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, Christian Caffrey, « Vivre en mortel », vous posez une question tout à fait pertinente qui rejoint le sujet que nous évoquons. Lorsque vous écrivez, je me suis interrogé sur ce qu'un affaiblissement et parfois même l'effacement de la conscience d'être mortel change à la vie. Au fond, c'est ça le problème. On évacue cette perspective de la mort parce que être mortel pose problème. Et vous poursuivez, est-ce que le rejet du terme, de la mort comme, conçu comme étant une fin, adoucit le quotidien, ou bien au contraire, déstabilise l'écosystème existentiel dans son ensemble? Voilà, si je me détourne de la conscience que tout ici, sous-entendu ici-bas, est éphémère, donc si je me détourne de cette conscience, si je refuse de regarder la mort en face, si j'acquiesce à ces propositions transhumanistes que l'on sait, d'un allongement considérable, sinon dans l'esprit de certains presque infini, de la vie terrestre, je sombre alors dans une vie sans relief et insatisfaite. Au contraire, si j'entre dans la dynamique vivifiante de la finitude terrestre, l'urgence des choix existentiels me met en marge. C'est, pardon d'être long, mais je trouve les choses très bien formulées. Mais vous allez dire encore mieux.
Non, mais c'est-à-dire que la question de la mort, le problème, c'est que dans le contexte que nous avons décrit, c'est difficile d'en dire quelque chose de positif. C'est très, vous savez, moi, je me suis confronté à tous les malheurs du monde dans le métier que je fais. Et alors, j'ai été très éclairé en lisant un tout petit livre du père Cantalamessa, qui s'intitule « Notre sœur la mort », qui est prêcheur du Vatican, et qui fait d'entrée dans les toutes premières lignes la distinction, et ça je trouve que c'est très éclairant, entre la mort dans sa dimension de mystère et la mort dans sa dimension de pédagogie. Pédagogie de la vie, grande sœur en sagesse. Vous comprenez? Donc dans un cas, c'est confronté, fin de vie, obsèques, mort, à mais où il est? Mais où est-elle? Qu'est-il devenu ce mort? Et puis l'autre, c'est pour tout le monde, à tous les âges, en toute situation, la question de tout d'ici est unique. Ce qu'on est en train de vivre, là, on ne va pas le rejouer demain, on n'est pas. Tout est unique, toutes les rencontres. Et donc c'est là que se situe la fine pointe dans cette mort pédagogue, que se situe la fine pointe de ce que j'appellerais l'aiguillon qui pousse potentiellement l'être humain à hiérarchiser les priorités de l'existence, à repérer ce qui est vraiment essentiel. C'est François Tchèque qui disait, si nous regardions plus souvent notre vie depuis notre lit de mort, que de choses se mettraient en place. Voilà. Alors, c'est pas nouveau, hein, je suis en train d'évoquer. Ce qui est nouveau, ce qu'il faut essayer de regarder à frais nouveau, comme disent certains observateurs, c'est qu'est-ce que cette question, pour nous individuellement et collectivement, peut changer. Et elle peut changer beaucoup de choses. Si nous laissons la pensée de la mort, non pas celle dramatique, des vanités, des sermons bossués, c'est plus l'époque, mais si nous regardons au contraire cette mort comme un facteur, cette pensée de la mort comme un facteur d'urgence de vivre, ben on va s'apercevoir que c'est pas la mort qui est absurde, ce serait la vie sans la mort.
Ce que disent à leur manière et de manière très 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 éloquente et littéraire, le reste des auteurs que vous m'avez cités, que nous connaissons tous peu ou prou, Maurice Sundell, Itai Soum, enfin qui ont.
Sundell, il y a une citation à faire. C'est la question, la vraie question n'est pas de savoir si ce qui se passera après la mort, mais si nous serons vivants avant de mourir. Je trouve ça très génial parce que de fait, alors on va bien sûr s'intéresser à l'après, mais
de fait, souvent, parfois, en France, les gens nous reprochent que l'espérance chrétienne est une piètre consolation, là où, en fait, l'espérance, ce n'est pas un espoir simplement réalisé. D'ailleurs, le prophète Jérémie, quand on voit 587 ans avant notre ère, avait déjà compris cela. Parce que l'espérance, c'est pas du tout ça. L'espérance que espérait Jérémie, c'était pas la restauration du temple ou les bienfaits du peuple d'Israël. Il a annoncé la destruction, il a même annoncé l'exil. Donc c'est pas du tout ça l'espérance pour ni pour le juif, ni pour le chrétien. L'espérance, elle se situe pour nous dans cette promesse de Dieu qui va s'incarner et se réaliser pleinement en Christ, d'une présence, et donc ça donne une valeur infinie à notre existence et à tous les instants qu'on vous l'avez dit, chaque instant est un moment d'éternité où nous façonnons notre visage d'éternité. Et c'est sûr que si cette présence, c'est la grande promesse de Christ, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est ça notre espérance en fait. C'est une vieille chose qui est 17 des Éthiens, vous verrez, je serai avec toi. La grande espérance, c'est je serai avec toi. Et quand on lit les Actes des Apôtres au chapitre 18, quand Paul est confronté aux persécutions, ce que l'Esprit Saint lui dit, c'est je serai avec toi. Je serai avec toi. N'aie pas peur. Cette présence du Christ, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous évoluons, c'est cette présence de Dieu. Pour moi, c'est un beau cri d'espérance, et c'est surtout une affirmation de foi de cette présence de Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous évoluons, que ce soit personnellement. Et je le dis souvent que peut-être que parmi vous qui nous écoutez, il y en a qui vivent un deuil récent, proche, ou encore très douloureux. Et j'espère que nos propos de ce soir ne vont pas vous mettre un beau d'espérance sur votre cœur. Et non pas attiser une souffrance, parce que parfois on peut faire des affirmations et aussi parfois même manifester un certain enthousiasme de parler de la vie éternelle, mais sans tenir compte justement que le Christ a pleuré. C'est extraordinaire cet évangile de Jean au chapitre 11, la mort de Lazare. Jésus vient dire : je suis la résurrection et la vie, et il est. Et quelques versets après, on le voit pleurer. Ça, c'est verset 25. Quelques versets après, on le voit pleurer devant la mort de Lazare. Donc, c'est très impressionnant. Il a la résurrection. En fait, il a la clé de la mort. C'est dit qu'il va vaincre la mort. Il a vaincu la mort sur la croix. Mais en même temps, la mort telle que nous la vivons reste quand même douloureuse, n'a pas été voulue par Dieu. Ça, c'est la grande foi aussi. Cette mort que nous vivons n'a pas été voulue par Dieu. Je sais pas si vous connaissez Michael Chapter qui dit qu'il y a quatre grandes souffrances pour celui qui vit le dernier moment. La souffrance physique, la douleur, la souffrance, bien sûr, psychologique, morale, la souffrance sociale. Je me rappelle de mon père, j'ai perdu mes parents déjà, la souffrance de mon père me disant: que va devenir ma mère? Sa préoccupation sociale, et que vont venir tes frères et sœurs? Et bien, on oublie la quatrième dimension, qui est complètement oubliée, y compris parfois dans la dimension des soins palliatifs, cette dimension spirituelle de la souffrance également. Et cette mort que nous vivons n'a pas été voulue par Dieu. Le livre de sagesse dit elle est entrée par la.
Non, je réagis parce que l'évangile, on a tous nos textes favoris. Alors, en matière de résurrection que Christ fait, moi, c'est le fils de la veuve de Naïm qui me touche le plus, et je vais vous dire en deux mots pourquoi. Vous vous souvenez sûrement de ce texte, que Christ se promène dans les chemins de Galilée avec une foule de gens enthousiastes, parce que je pense que d'avoir côtoyé le Christ, même si vous n'avez pas soigné, guéri personnellement, mais rien que son contact, ça devait être formidablement enthousiasmant. Et puis soudain, chaque de plomb, ce cortège joyeux rencontre compact un autre cortège qui lui est pesant. Et le texte dit une veuve enterrée donc son fils unique. Déjà, moi, j'y vois une chose, c'est que le Christ est renseigné. Il n'a pas vu comme ça un pauvre funéraire comme n'importe quel autre qu'on voit. Il s'est renseigné. On lui a dit l'extraordinaire cruauté de cette situation. Une veuve de la société d'époque, elle était comme morte, et en plus elle ne restait que ce fils, et ce fils est mort. Et ce qui est formidable, c'est que son nom, c'est pas Sarah ou Judith, c'est la veuve de Naïm. C'est-à-dire son identité, c'est cette ville, et toute la ville est derrière elle. Bon. Et le truc le plus dingue, parce que, bon, forcément, moi, je fais des enterrements, donc je sais ce que c'est que cette espèce de bulle de protection qui fait que quand on s'avance avec le corps, là, on est aux portes du cimetière. J'ai jamais vu quelqu'un arriver, stop. Non, c'est le lieu même de la dignité, du respect, n'est-ce pas? Et bien voilà que Jésus, cet inconnu, il s'avance. Quelle audace! Il s'avance. Et il va parler à cette femme. J'ai envie de rire. Attends, arrête, laisse-la entrer. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il le sait. Mais il n'y a pas grand monde en général qui fait ça. Il dit, ne pleure pas. Non, moi, je ne sais pas, la dernière fois que vous avez dit ne pleure pas, moi je me souviens très bien, j'avais un enfant qui est tombé de vélo, je vais essayer de lui apprendre sans les petits trous, il avait mal, il avait les genoux couronnés, je lui ai dit ne pleure pas parce que c'était ma douleur, la sienne. Mais on est à ce niveau de compassion. Et si j'aime ce texte, c'est parce que, donc après il ressuscite, il rend son fils à la vie et il le rend à sa mère. Mais ce qui m'a passionné, moi, c'est de dire, bon, nous, dans le pont funèbre, non, on n'a jamais ressuscité personne.
Dans le clergé non plus. Enfin, sauf quelques-uns, on peut voir.
Bernanos.
Peut-être Saint-Paul, je ne sais pas.
Saint-Martin.
C'est
pas bon.
Et pourtant, combien de fois avons-nous relevé des gens dans la peine? Contribuer à relever des gens dans la peine, je veux dire les choses très modestes, alors juste nous. Mais de la façon parfois la plus anodine, la plus simple, mais en étant là. Vous savez, moi, le truc le plus incroyable que donne dans mon métier, c'est que quand les gens sont dans des drames les plus abominables, qu'ils isolent parce que ça fait très peur, ils ont besoin de nous et ils nous tendent une main qu'ils espèrent ferme. Voilà. Donc, pour moi, ce texte de la veuve de Naïm m'invite à considérer que ce miracle de la résurrection, nous pouvons tous le vivre les uns pour les autres, les uns avec les autres, dans notre participation à la consolation et au relèvement.
Alors vous dites quelque chose de très important pour moi, Christian. Vous voyez, l'espérance chrétienne n'est pas qu'une espérance pour moi. C'est le propre de l'espérance chrétienne, c'est ce qui en fait sa spécificité. C'est pas simplement qu'on prend un au-delà de la vie. C'est forcément une espérance pour les autres.
Alors justement, vous avez... Moi je ne vous interromps pas parce que c'est magnifique, la transition a été plus que ménagée vers la deuxième question. Vous avez même entamé, et tant mieux, le sujet de celle-ci. Vous parliez l'un comme l'autre du reste de susciter l'espérance chez autrui, ou en le consolant, en l'accueillant à la façon dont Jésus lui-même, vous prenez deux exemples insignes, sait le faire. Je ne veux pas retourner vers des considérations très théoriques après des choses si suaves, mais comment est-ce que vous définiriez, parce que pour l'instant on fait un peu une circonvolution autour comment définiriez-vous l'espérance chrétienne sans nécessairement en venir aux définitions théoriques mais qui ont toute leur importance, mais voilà, Et en quoi celle-ci se distingue-t-elle, cette espérance surnaturelle, des espoirs humains, qui peuvent être très beaux, qui peuvent être...
Je dis souvent, dans le catéchisme de l'Église catholique, vous avez deux numéros qui sont très importants à ce sujet. Donc c'est le numéro 1817 et 1818. Et vous savez que le catéchisme a été écrit en français, après il a été traduit en latin et en langue verbale, toutes les autres langues. Parce qu'en français, on a une chance, c'est qu'on a deux mots. Espérance, espoir. Vous ne l'avez pas en italien, vous ne l'avez pas en espagnol, vous ne l'avez pas en anglais, vous ne l'avez pas en latin. C'est la raison pour laquelle quand il a fallu traduire la deuxième cycle du pape Benoît XVI, spécialement, sauvé dans l'espérance, le pape a trouvé une main réussie. Il a dit la petite espérance, ce qu'on appelle les espoirs, et la grande espérance, ce qu'on va appeler l'espérance surnaturelle. Et quand on définit l'espérance, qu'est-ce que l'on dit? Trois choses. C'est une vertu théologale par laquelle nous désirons. C'est donc une vertu du désir. Nous désirons quoi? Le royaume et la vie éternelle. Pour le dire tout simplement, le salut. Premier point, la vertu d'espérance, c'est la vertu du désir qui nous fait désirer le royaume et la vie éternelle. Ce royaume qui, pour nous, est déjà là. La vie éternelle, elle est déjà commencée. Le salut, c'est le Christ. Il est là. Tous ceux qui vivent avec lui sont déjà dans la vie. Deuxième chose qui définit l'espérance. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ. Ce mot promesse, qui appartient évidemment à toute la tradition judéo-chrétienne, depuis Abraham jusqu'au Christ, c'est le cœur de l'espérance. Si c'est la vertu du désir, c'est aussi la vertu d'une promesse. Nous nous appuyons sur les promesses du Christ. Tout à l'heure, je vous avais cité une. Je sors, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et quand vous regardez l'ensemble de l'Évangile, le Christ vient comme récapituler toutes les promesses de l'Ancien Testament, toutes les promesses d'Israël. Et on peut même dire que toute l'histoire d'Israël est comme une pédagogie divine du Père pour nous préparer à cette espérance qui est le Christ lui-même. Troisième élément, celui-là, il est fondamental pour bien l'avoir en tête. En nous appuyant non pas sur nos propres forces, mais sur le secours de l'Esprit Saint. Ça veut dire que ce qui définit l'espérance, c'est que Dieu vient à notre aide. Vous savez, c'est ce qu'on dit dans la prière de l'office au tout début. Dieu vient, je le fais en chantant. Oui. En latin ou en français? Il
faut qu'on chante. Bah, en français, du coup.
Parce que avec le clamasson, je. Oh. Mais il vous a chanté, effectivement, moi j'étais en extase.
C'est... Vous avez fini la
lettre de... Ben oui,
c'est des blagues de curé, voilà. Ouais, c'est pas de vicaire et de moderne d'opéra.
Stop.
C'est un petit moment d'éternité.
Pour détendre un peu la vie.
C'est ça, je mets la lettre.
Voilà. Et oui, Dieu vient à mener le Seigneur à notre secours. Toute l'Église, dans la liturgie de l'Office, dit à plusieurs reprises, Seigneur à notre secours. Ça veut dire que je vais essayer, moi, de correspondre avec une petite force, ma petite intelligence, ma petite volonté, mes petits efforts. Mais c'est Dieu qui nous donne tout. C'est une vertu théologale. Elle a Dieu pour objet, mais elle nous vient de Dieu avec effusion. C'est une vertu. Dans le numéro 2, c'est très important, vous allez voir qu'on dit que c'est la vertu d'espérance. Elle vient comme prendre en main tous nos espoirs humains. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Et vous avez 6 verbes dans ce numéro. 6 verbes. J'espère que je vais me rappeler. Malheureusement. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle augmente les espoirs vers le royaume. Vous voyez, très souvent, au XXe siècle et au XXIe siècle, on a confondu l'espérance avec le progrès. On a mis notre espoir dans le progrès. Et tout à l'heure, Christian parlait de l'économie. Très souvent, on a investi l'économie, nous pensons que mieux serait dans l'économie et plus on allait résoudre le problème des humains. Oublions la question essentielle qui nous angoisse tous, c'est qu'un jour on va apparaître devant Dieu. C'est qu'un jour on va mourir. On ne sait pas comment, on va manger. Et donc la vertu d'espérance vient orienter tous les espoirs des hommes, c'est bon ça, de toute la terre. Elle vient les purifier. Elle vient les protéger du délaissement. Elle vient les stimuler contre le découragement. Et elle vient, c'est encore plus beau, dilater nos espoirs à la mesure même du cœur de Dieu. Espérer, ce n'est pas attendre seulement des bienfaits de Dieu, c'est attendre Dieu de Dieu. Et rien moins que Dieu. Quand on dit qu'on espère nous, on espère que Dieu se fait pour nous. C'est ça la espérance. Mais ce n'est pas simplement espérer des jours meilleurs. Ce n'est pas espérer que je vais réussir ma vie. Ce n'est pas simplement espérer qu'un jour l'Église puisse retrouver sa place dans la société. Ce n'est pas simplement espérer un triomphe de l'Église. Le numéro 675 du catéchisme nous rappelle qu'il n'y aura pas de triomphe humain de l'Église. Elle va connaître comme son Seigneur une fin historique dans la, le dénuement. On n'attend pas ça dans l'espérance. Donc n'attendez pas ça, vous ne le verrez pas. Parce que ce n'est pas ce que Dieu nous promet. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que si on reste avec lui, dans une union vitale, quotidienne avec lui, parce que nous avons à le décider tous les jours, alors oui, ma vie éternelle est déjà commencée. Oui, oui, je veux Dieu et je ne veux rien de moins que Dieu, parce que je suis fait pour lui. Et c'est très important, donc, cette connexion entre la grâce et la nature, entre la liberté et la volonté de Dieu, et entre l'espérance et tous nos espoirs. Si bien que moi, dans l'évangélisation, quand quelqu'un me parle, et je rejoins la question sur comment être témoin d'espérance, j'ai appris une chose au nom du jeu, c'est qu'il fallait que je me taise. Là où on demande de parler, je ne parle pas. Mais il fallait que je me taise. Parce que les gens qui viennent chercher d'un deuil, ont besoin d'un lieu pour crier leur souffrance. Et moi, au début, donc, comme jeune prêtre, j'étais complètement démuni. Je voulais apporter des solutions, je voulais apporter du réconfort. Et j'ai appris une chose toute simple. Tu n'as rien à faire. Tu as simplement à être là et à accueillir la souffrance de ceux qui t'entourent. C'était un autre cheminement. J'ai eu 15 ans. 15 ans après que je joue. Et je le dis beaucoup au séminariste aujourd'hui et auprès de ma communauté. Face au monde de la souffrance, on n'a pas à dire quelque chose. On a la présence d'une présence qualitative, une présence de Christ. Et quand les questions émergent dans le cœur de celui qui est à côté de nous, alors une révélation est possible. Parce que l'expérience du Christ ressuscité est envisageable. Trop souvent, nous donnons des réponses, y compris sur le plan, à des personnes qui ne se sont même pas posées la question. Trop souvent, nous apportons des réponses là où les questions ne sont même pas posées. Tout l'enjeu pour moi d'être un témoin d'espérance, c'est de se faire poser les bonnes questions à ceux qui nous entourent.
Alors, comme le mot salut a été prononcé, c'était bien nécessaire. Moi, je voudrais un parallèle entre ce qu'on a évoqué en commençant sur cette mort mise à distance de la vie, courante, de la vie sociale, de la vie personnelle, et l'affadissement de l'intérêt pour la question du salut. C'est vrai que dans l'Évangile, ce qui me frappe toujours, c'est de constater à quel point les hommes et les femmes que le Christ côtoie ont cette question viscéralement chevillée au corps. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, etc. Qu'aujourd'hui, en l'absence relative, mais plus que relative à mon sens, de préoccupation de cette question du salut, au fond, on vient un peu dans la théologie de Paul Naref, on ira tous au paradis.
Voilà, troisième sommet à chanter.
C'est pas fini.
Mais pour dire des mots.
C'est pas fini. Et du coup, sur cette question du salut, ben, moi, ce que je voudrais amener, puisque. Je trouve ça bien, on évoque beaucoup la parole de Dieu. Moi, c'est la visite de Nicodème à Jésus qui me parle le plus, pour répondre à votre question. Hein, vous vous souvenez, Nicodème, ce personnage, membre du Sanhédrin, et puis qui va nuitamment, prudemment, on imagine, en train de se frayer un chemin dans les rues peuplées de Jérusalem pour aller voir cet homme dont il va d'entrée de jeu reconnaître la stature, ce que tu fait, aucun homme ne peut le faire, c'est bien de Dieu. Enfin, et sans que Nicodème ait besoin d'en dire plus, Jésus d'entrée va lui livrer l'essentiel. À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ce que j'aime déjà, c'est que la question du salut n'a pas besoin d'être posée. Il sait que c'est celle-là qui anime cet homme en venant à sa rencontre. Et ce que lui dit le Christ, c'est que ce salut, il est à l'œuvre ici et maintenant. Et je vous assure, pour avoir vraiment été souvent auprès de ses familles, dans le deuil et ça, en repartant, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire, pourquoi faut-il attendre un deuil pour véritablement comprendre, vivre, ressentir profondément en nous que c'est cet appel-là que la mort nous suscite, c'est-à-dire, veux-tu vivre de l'esprit? Dieu est esprit, veux-tu vivre de l'esprit? Et vous vous souvenez de lorsque Nicodème fait un peu le nigo en disant, mais pourquoi il faut retourner dans le monde de sa mère? Et qu'est-ce que lui répond Jésus? Alors là, je vais vous chanter les versions de Joachim Simas, parce que ça va faire contrepoids à tout le latin. Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas où il va, mais tu ne sais pas d'où il vient. Le vent. Voilà. Pour l'Esprit Saint, je crois que c'est là.
Dans l'évangile de Jean, il y a deux autres rencontres. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a trois fois on voit. Là, vous avez cité le chapitre 3, et on le voit au chapitre 7, tout à la fin du chapitre 7, c'est très beau. Nicodème réapparaît pour défendre Jésus, et Jésus vient de dire de mon côté couleront des fleuves d'eau vive, l'Esprit Saint. Mais alors, je pense que vous avez cité le chapitre 19 et 20, surtout.
Alors, bien sûr, non, mais là, on ne va pas dérouler tous les évangiles de Jean. C'est pour préparer le corps. Donc, ça m'amène à dire que de cette expérience qui est la mienne, la plus belle découverte que j'ai pu faire très tôt, c'est que dans l'ordre de la foi, le spirituel et le matériel sont absolument inséparables. Et que la mort est donc un lieu fort, un lieu par excellence d'incarnation. Et bien sûr, quand je pense à l'incarnation, je pense au Christ. Et là, je lis, je découvre. Non, je les ai vus, ces textes, mais je les redécouvre à la lumière de mon expérience, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe après que le Christ est expiré. Joseph d'Arimathie, Nicodème, deux personnages éminents de la société juive de l'époque, qui vont se mobiliser pour, je dirais cette fois-ci, sortir du bois et prendre soin du corps du supplicié. Et vous savez que le Christ ait reçu des soins selon la tradition juive de l'époque, c'est énorme. Et d'ailleurs, dans le credo, on dit bien, a été enseveli, c'est-à-dire que tout ce qui se passe après sa mort et jusqu'à sa résurrection est imprégné aussi de ce soin que des êtres humains, des hommes, des femmes, vont prendre de ce corps, comme s'il fallait le restaurer un peu dans son humanité avant que son Père ne l'élève dans l'éternité. Moi, je trouve ça magnifique, en tout cas, ça nous ouvre vraiment un chemin sur le respect infini qu'il faut avoir, non seulement du corps humain vivant, mais de la dépouille mortelle. Que c'est vraiment là le temple de l'esprit, et que tout être humain a le droit à cette dignité parmi tous les acteurs de ce dont j'évoque, ce dont je parle, il y a ces associations qui se préoccupent des hommes et des femmes qui meurent dans les rues. C'est formidable ce que font ces gens, parce qu'ils nous rappellent que la dignité c'est pour tout le monde, alors essentiellement pour les vivants bien sûr, mais aussi à travers la dépouille mortelle, qui est vraiment le symbole par excellence de toute cette dimension du sens. Moi, j'aime bien cette formule qui dit « Toute mort a une parole à dire aux vivants ». Lorsqu'on perd un proche, on est confronté soi-même à des interpellations pour sa propre vie, d'abord pour sa propre mort, bien sûr, mais aussi pour tout ce que, au moment où l'annonce arrive, on est comme mis à nu, comme ça, on est écorché, on est blessé, mais on est aussi très fortement mis à nu, et voilà, et c'est l'occasion de grands bouleversements, de grandes remises en cause, et parfois de recommencement dans l'ordre de la foi aussi. Il faut que vous passiez à la troisième
question. Non, mais justement, mais décidément, vous êtes médium, prophète, je ne sais pas, mais par là, nous aboutissons à la troisième question. Vous parliez d'incarnation, et c'était magnifique. Vous parliez de la corporéité, de la dignité, un signe du corps humain. Et quand vous évoquez ces sujets, moi je pense aux rites. Vous avez des phrases très belles dans un autre ouvrage, Parcours d'adieu, chemin de vie, où vous dites que les obsèques ne se résument pas à une célébration, mais elles sont un parcours qui va d'abord vous élargir le spectre, évidemment de toute une partie qui échappe, par exemple, au prêtre que je suis, en amont, tout ce qui va depuis le lit de mort jusqu'à la tombe, en fait. Donc c'est un parcours de vie qui va du lieu de mort au lieu de la sépulture, et sur ce parcours, tout a une valeur symbolique latente. Et un peu plus loin, vous dites que l'instinct de l'homme réclame des rites et les fruits qui en découlent. Et je pense que le prêtre qui est donc Paul sera tout à fait dans la même perspective, effectivement. Alors quelle est la place du rituel, en quoi celui-ci peut-il soutenir l'espérance? Parce que c'est sous cet angle-là que nous considérons ce soir.
Je commencerai avec une formule très belle d'Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit dans Citadelle « Le rite est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. » Le rite est dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. Et voyez-vous, quand on a appris un deuil, la mort d'un proche, on est à vif. L'être humain, il est écorché. Et nous, on les voit dans les heures qui suivent, donc c'est vraiment tout nouveau. Et ce qui est étonnant, alors que tout est dans l'ordre du chaos, la sidération, c'est fébrile. Et quand on va arriver à l'étape où on peut dire ben les obsèques, ce sera mardi prochain, levée de corps à 9h30, célébration à 10h30 à Stella Matutina, et ensuite inhumation au cimetière nouveau de Boulogne. Et ben, y a comme un chemin, comme une bâtisse qui s'est créée. Si les gens vont se projeter, vont pouvoir l'annoncer, vont pouvoir préparer la célébration à l'église, bien sûr, mais aussi qu'est-ce qu'on va vivre à la fermeture, à l'adieu du visage, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, et ce moment, ce temps de ce parcours, parce qu'effectivement, c'est plus qu'une célébration, c'est un parcours, moi je l'appelle un temps de vie augmenté. Parce que tout au long de ce parcours, tout a potentiellement du sens. Et bien sûr, il y a toutes les paroles de la liturgie de notre église. Mais quand elles sont vraiment entendues, quand on les laisse résonner profondément, et dans ces moments-là, ça prend une dimension décuplée. Tout est décuplé, en fait. Et j'ajouterai aussi une chose qui me paraît essentielle, c'est que c'est un lâcher-prise. J'aime bien avoir ce mouvement pour le symboliser. Au long de son parcours, les proches t'ont fait un peu ça. Ça veut dire, tu peux y aller, va vers ton Créateur, nous ne te retenons plus. Parce que la réaction humaine, c'est de vouloir garder, avec la crémation, on a vu des gens qui gardaient les urnes chez eux, comme ça, ils faisaient des rituels domestiques, et ça, c'est pas bon. Il faut accepter symboliquement et spirituellement, et j'allais dire aussi psychologiquement, ce déplacement qui ensuite va prendre des mois, voire des années dans le deuil, mais qui est préfiguré dans ce parcours. Vous savez, il y a du génie humain dans ce que je décris. Hein, c'est tout simple, mais c'est en même temps rudement bien conçu, parce que enfin, c'est vraiment ce qui nous fait être humain par rapport au règne animal. Et c'est cette capacité. Voilà, moi, quand je ferme un cercueil, dire que chaque vis, elle est lourde de signes pour ceux qui restent. Et quand on descend le cercueil dans la fosse, ben voilà, tout a une valeur très forte et très symbolique. Je voulais dire ça en introduction, mais encore une fois, le réel fonde le spirituel. La plus grosse erreur, c'est de croire qu'au moment d'un deuil, face à la mort, nous sommes des êtres éthérés, désincarnés, qui vont s'élever dans une pure spiritualité jamais dans l'incarnation. Moi, j'ai appris, je dirais, la ritualité funéraire. J'ai la chance d'avoir comme meilleur ami un trappiste. Mais c'est vraiment le contact de cet homme que j'ai perçu ce qu'était véritablement une belle, une sainte mort et un bel adieu profondément chrétien, parce que les moines sont porteurs de cette tradition.
En vous écoutant, je pensais à deux choses. Je pensais au vieillard Simeon. Maintenant, le maître se rend, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Le lâcher prise, c'est une chose que moi j'ai beaucoup vécu à mon jour, où je me rends compte que, en fonction de notre vie de foi, puis aussi une des étapes du deuil, c'est d'accepter de voir l'autre partir. Et vous savez que dans le rituel, il y a aussi des chants qui sont très beaux, et en particulier un chant très ancien, il existe en latin et en français maintenant, que je trouve très beau, c'est quand on demande, ou on va recommander l'âme du défunt aux frères et sœurs qui sont déjà dans la visite, que sont les saints des saints. Et là, il y a vraiment un lâcher-prise, et on ne le lance pas comme dans le vide. Il y a une prise en main de l'Église du ciel, de notre frère et de notre sœur. C'est-à-dire que j'accepte que tout ce que j'ai tissé avec cette personne que j'ai tant aimée, bien, que ça s'est amené à plus large que moi. Et j'accepte de ne pas le laisser dans mon sphère. Maintenant, mon maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Ta servante s'en aller. Il ne part pas n'importe où. Il est dans les bras de Dieu, mais aussi avec les saints et les saintes qui sont là pour l'accueillir. Donc, on s'est fait en deux, dans la constitution dogmatique sur l'Église, dogmatique, il y a tout un chapitre que je vous invite à lire si vous travaillez l'espérance dans votre année, ici, les paroissiens de Saint-Paul. C'est au chapitre 7. C'est extraordinaire, je trouve. Et on parle de cette fraternité avec les frères et sœurs qui sont ici. Donc, ritualiser la mort, c'est dire à cette personne, elle a fini son séjour, mais elle entre dans une autre dimension. Elle entre dans la dimension de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle est absente, mais elle est présente d'une autre présence. Et je pensais en vous disant à Marie-Madeleine, qui veut retenir Jésus à la résurrection. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, ne me retiens pas. Je dois aller vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est le deuil. Ce n'est pas une partie facile. C'est un petit arrachement à lâcher Jésus. Le mot était très, je ne sais pas comment, souligner les dimensions spirituelles de ce que vous avez dit, parce que je trouve que c'est très beau. Ce n'est pas le plus facile à faire. Et donc, vous connaissez tous un état de deuil. Il y a bien évidemment souvent le déni. Moi, j'ai accompagné une personne à mon Lijon qui, pendant 20 ans, a mis à servir à table son mari et les défunts. 20 ans. Elle mettait même sa veste sur la chaise pour vous dire comment elle n'arrivait pas justement à le laisser partir. Tellement que c'était dur. Et on peut comprendre, on peut connaître un peu ses études, etc. Moi, je me rappelle même de ma mère, quand mon père est mort, me dire, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu, mon père est mort jeune, pourquoi Dieu rappelle ton père, alors qu'il y a plein de couples qui sont divisés, il n'a qu'à aller chercher là-bas. Et moi, j'étais jeune prêtre, bon, j'ai embrassé ma maman pour faire quelque chose, mais je ne comprends pas comment.
Et avec le recul.
Et avec le recul, maintenant elle l'a rejoint. Donc,
je remets sur cette idée que Dieu rappelle.
Que Dieu rappelle quoi?
Pourquoi?
Oui.
C'est ce qu'elle explique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a rappelé mon mari, mon cher et tout. Parce qu'en fait, ça pose quand même question, comme j'enterre des jeunes filles de 20 ans, mortes dans des accidents. Le rappel à Dieu, là, c'est quand même vraiment compliqué, parce que qui sait, c'est Dieu qui. Je me dis parfois. Que rien que le visage de Dieu est le plus déformé, c'est face à la mort,
c'est vrai. Et la souffrance.
La souffrance
aussi. Qui est une souffrance à mort, bien sûr.
Est-ce qu'on pourrait restaurer son vrai visage face à
la mort? Je pense que. Moi, je réponds intérieurement avec 1 Corinthiens 15, 19. Si tu mets ton espérance dans le Christ, pour cette terre seulement, tu es le plus à plaindre des hommes. comme on a un peu évacué cette dimension, je sais que l'espérance n'est pas qu'une projection dans un au-delà pour nous désengager d'un ici-bas. Je suis totalement d'accord. Mais je rappelle quand même que la véritable horizon de notre vie, c'est l'éternité avec Dieu. Et que notre vie sur terre est un prélude, comme une préparation, comme une anticipation. Mais nous ne sommes pas faits pour la terre. Et maintenant, quand je regarde le jour dans la rue, tout à l'heure, j'étais avec un SDF à Paris. J'ai pris le temps avec lui. Il voulait de l'argent, je lui ai dit, j'ai pas d'argent, mais je voudrais qu'on parle ensemble de ta vie. Ça va bien, ça va étonner. Je regarde toujours la personne à l'aune de son éternité. En fait, de savoir qu'on va vivre pour la vie éternelle, ça donne un poids énorme à tout ce que l'on vit maintenant, mais aussi une valeur aux personnes qu'on rencontre. Aux personnes qu'on rencontre. Je vous raconte une petite histoire. À Mortagne, où j'étais, il y avait une dame de 97 ans. Elle ne pouvait plus bouger, elle était dans son fauteuil. Et à chaque fois que j'allais la visiter, une fois par semaine, pour leur apporter la communion, je voyais le personnel de santé, qui le disait qu'il n'était pas croyant du tout, venait toujours la voir. Alors je lui ai dit, mais non, vous êtes un homme de phénomène, madame. Il y a tout le monde qui vient vous voir et tout. Et il m'a dit, je ne comprends pas. Et ils viennent tous vous voir. Ils viennent tous vous raconter leur histoire. Et en fait, je ne lui ai pas dit. Vous savez ce qu'elle avait fait faire? Elle avait des yeux qui aimaient. Elle était attirée par l'amour. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas besoin de parler de Dieu. Dieu était là dans la pièce. Ils venaient en fait déposer leurs soucis de famille, leurs soucis professionnels. Parce que cette femme, elle avait accompli sa vie. Parce qu'elle était tout à l'heure. Eh bien, un chrétien qui vit dans l'espérance doit voir l'amour en lui et voir les autres avec l'amour. C'est ça comment ça. J'ai resté que ça. Et si on fait ça, bah, on a réussi notre vie. Parce qu'il n'y a que l'amour qui entrera en Dieu. Tout ce qui n'est pas d'amour ne pourra pas entrer en Dieu. Il aura été purifié. Puisque notre Dieu s'est révélé comme un Dieu d'amour. Et au fond, je me suis dit, dans notre vie, ce qui est très important, c'est cela. C'est quelle est la qualité de ma relation à l'amour. Est-ce que je suis en paix avec les autres? Même s'ils m'ont fait mal, même s'ils m'ont blessé. Est-ce que je suis capable d'aller au-delà de la blessure, etc. Mais ça engage notre vie, profondément.
Je me permets, parce que la retourne, comme on dit, de saisir l'opportunité de ce que vient de dire Paul. Tout ce que l'on dit depuis le début en réalité sur le rôle des vivants vis-à-vis des défunts, parce que il est important. Je suis parfois saisi un peu par le fait que à l'occasion de certains témoignages qui sont rendus pour les obsèques, j'ai l'impression qu'on n'enterre que des saints quasiment, mais qu'on sauvait en sainteté, enfin de grands saints. Alors, plaise à Dieu que ce soit le cas, mais parfois des témoignages qui me sont donnés ultérieurement sont un peu discordants et où mettent un bémol, disons, à cette. Alors, je comprends tout à fait, vraiment, avec beaucoup de compassion, que l'on cherche à mettre en évidence tout ce qui a été beau et bon dans la vie du défunt, bien entendu. Par ailleurs, qu'on en tire une consolation. Et je crois que les obsèques ne sont certainement pas le lieu où on règle les comptes, certainement pas, mais par conséquent, j'ai l'impression que passe souvent en second plan le rôle d'intercession qu'il revient aux vivants de jouer vis-à-vis des défunts. Et de cette magnifique charité, vous savez que ça fait partie des œuvres de charité, et le pape François nous l'a rappelé à l'occasion de l'année de la miséricorde, dans sa bulle d'indiction qui ouvrait cette année. Je parlais des œuvres de charité corporelle, enfin de miséricorde corporelle, spirituelle, et parmi celles-ci figurait la prière pour les défunts, notamment, et même les soins apportés jusqu'au corps du défunt. Pourriez-vous nous dire un mot sur ce lien qui court par-delà la mort, qui a, bien entendu, la mort est, nous l'avons dit en fait, et, enfin c'était, j'allais dire, sous-entendu,
insupportable, enfin, la séparation est tellement coûteuse que parfois elle ne passe pas. Mais néanmoins, je crois qu'on peut y cueillir un bien pour le défunt et aussi une consolation pour le vivant, car alors le lien réciproque, qu'on appelle amitié en somme, continue, perdure d'une autre manière, mais d'une manière aussi belle et dense. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques...
Votre question donc, vous pose la question de purification après la mort, c'est-à-dire que quelqu'un qui meurt, nous croyons en la foi, en nous appuyant sur l'Écriture, qui va rencontrer son Seigneur. Et cette rencontre, elle est un jugement. Vous voyez, vous avez deux textes fondamentaux pour cela. Vous avez d'abord l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Puis vous avez la première aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. C'est-à-dire qu'au moment de ma mort, je vais devoir rendre compte de ma vie. Cette rencontre se fera dans la lumière de l'Esprit Saint. Ça veut dire que je serai complètement éclairé par. Et je verrai en fait l'homme en vérité que je suis. Le critère du jugement de Dieu, c'est la foi au Christ. C'est l'évangile d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est celui qui met sa foi dans le Christ est déjà passé, a déjà passé la mort et le jugement. Un chapitre 5 de Saint-Jean. Et ce qui est important de voir, c'est que de fait, il y aura un jugement en fait, particulier au moment de notre mort. Alors ça, nous ne partageons pas avec tous les chrétiens. Ça appartient à la théologie catholique. Certains orthodoxes le croient, certains protestants ne le croient pas. Donc ce n'est pas partagé par tous. Ce qu'on appelle le jugement particulier au moment de la mort. Et ce qui est certain, c'est qu'après ce jugement-là, est aussi le moment d'une purification. Parce que dans le regard du Christ, dans cet amour que le Christ va nous, dans cette rencontre, il va se faire la lumière entre ce qui en moi est déjà habité par l'amour et ce qui n'est pas encore habité par l'amour. Tout ce qui a été distordu en moi par ma vie. C'est pour cela que l'Église croit à un purgatoire, c'est-à-dire une purification après la mort. Comme fondement de cela, nous avons la très belle épître de Paul, la première aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 10 à 15. Et le verset 15, en particulier, dit « Nous serons purifiés comme à travers le feu. » Le feu, bien sûr, pour nous, c'est le feu d'amour, c'est le feu de l'Esprit. Et c'est une purification. Mais la théologie, se désenveloppant et réfléchissant, on va de plus en plus parler non plus d'une purification, même si ça l'est, mais d'une guérison. J'ai été frappé dans la deuxième encyclique qui parle de Benoît XVI sur l'espérance, qui parle de la réalité d'une purification, que par deux fois, il parle d'une guérison. Donc c'est une guérison dans la mort. Donc ça, c'est ce qui se passe après la mort, dans le cadre de la foi catholique. Alors vous me direz, mais si c'est entre le Christ et l'âme, et que l'âme est purifiée dans la rencontre avec le Christ, à quoi sert de prier à nous sur la terre? Au numéro 48 de cette encyclique spéciale, le pape rappelle que nul n'est seul, nul ne pêche seul, nul ne se sauve seul. Nous ne sommes pas des monades, nous sommes tous interreliés les uns aux autres. Par conséquent, le Seigneur a voulu dans sa providence que nous soyons tous dépendants les uns des autres dans le salut. Par conséquent, notre prière aujourd'hui pour ceux qui sont morts, ceux qui sont en purification, est efficace. Elle peut non seulement être efficace, mais elle peut aider aussi à leur intercession en notre faveur. Je ne sais pas si j'ai rendu bien l'idée, mais c'est ça la raison d'être de la prière pour les défunts. Nous les prions aussi pour qu'ils achèvent ce chemin qui n'a pas été. On pourrait dire qu'il y a une mort inachevée ici-bas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas complètement encore totalement dans la mort. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore totalement achevés dans la mort.
Moi, ce qui me préoccupe, et je dis ça en pensant à cette phrase « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés », c'est la question du salut pour tous. On a eu la manif pour tous. Non, mais c'est vrai, le salut pour tous, point d'interrogation.
Alors, le salut pour tous, c'est la volonté du cœur de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour reprendre l'expression du Père Vincent tout à l'heure, Dieu veut que nous soyons tous ses amis. Mais une amitié, c'est un amour de bienveillance réciproque. Mais Dieu ne peut pas contraindre quelqu'un à l'amour. Et là, il respecte la liberté. Et s'il y a une possibilité de ne pas être sauvé, ce qu'on appelle, dans notre langage à nous, la rétribution perpétuelle de la vie ou l'enfer, c'est tout simplement parce que la liberté de l'homme peut, face à l'amour, dire non. Pour cela, vous avez deux passages.
Ah, pardon, mais être libre, mais il n'est pas tout à fait égal sur la proposition de la foi. On est l'un comme l'autre né dans des familles chrétiennes, quid des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Il y a bien un moment où cette proposition va leur être.
On ne sera pas sauvé parce qu'on a l'étiquette chrétien. Je ne dis pas que toute personne chrétienne est sauvée et que les autres seront sauvés plus difficilement. Le critère du salut, c'est la qualité de l'amour. Et c'est ça la. Plus exactement, dans la première aux Thessaloniciens, il est dit « Le critère du salut, c'est la vérité de l'amour. » C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est pas simplement parce que j'ai aimé, mais est-ce que j'ai aimé en vérité l'autre. Et c'est ça le critère du salut. Mais il ne faut pas oublier aussi les paroles de Jésus. Par exemple, en Matthieu 12:32, quand Jésus parle du blasphème contre l'Esprit Saint, en Matthieu 12:32, il est dit ce péché, les blasphèmes faits au Fils de l'homme pourront être pardonnés. Mais celui qui a blasphémé contre l'Esprit Saint, ce péché sera pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. Et la correspondance en Marc 3:29, il est dit que celui qui a péché contre l'Esprit Saint est coupable d'une faute éternelle. Donc on voit bien que Jésus prend très au sérieux et le don de Dieu, et en même temps le fait que l'homme peut se refuser à aimer. Pour cela, je vais utiliser une image pour comprendre mieux. Si vous avez une éponge qui est très dure, parce qu'elle n'a pas servi depuis très longtemps, et qu'à côté vous avez une pierre, et si vous versez de l'eau sur l'éponge et de l'eau sur la pierre, ce que fera l'éponge, c'est qu'elle va être dure, mais elle va absorber. Et au fur et à mesure qu'elle absorbe, elle va se ramollir. La pierre, non. Le cœur de pierre ne peut pas entrer au royaume. Et ça nous montre que la miséricorde de Dieu est infinie. Ça, c'est l'eau qui se déverse. C'est les fleuves d'eau ou de son sein. Mais si l'homme se refuse à se saluer, si l'homme dit « Je ne veux pas croire », c'est la finale de Marc. Celui qui ne croira pas sera condamné de Jésus. Et donc, dans la théologie catholique, on tient compte des paroles de Jésus, et pas simplement d'un aspect purement un peu, parfois un peu psychologique, mais des paroles de Jésus, donc de la globalité de la révélation, pour l'ennemi, il y a une réelle possibilité pour tout homme, y compris les chrétiens, de se donner éternellement. C'est-à-dire de refuser l'amour jusqu'au bout. Tout à l'heure, je vous ai dit, au fond, moi je me dis, le but de notre vie, c'est d'apprendre à aimer. C'est d'apprendre à aimer. Tous les jours que Dieu nous donne, c'est pour apprendre à aimer. Certains meurent à 17 ans, c'est l'exemple que vous donnez. Mais peut-être que du point de vue de Dieu, je pense à Thérèse de l'Enfant Jésus, 24 ans, on s'est dit, mais elle aurait vécu 10 ans de plus, elle aurait encore apporté encore plus de lumière sur la terre. Mais 24 ans, elle était déjà dans cette plénitude.
Merci beaucoup.
La théologie purgatoire dans l'Église catholique est une théologie de l'espérance, manifestant la miséricorde infinie de Dieu, montrant qu'il n'est jamais trop tard pour aimer. Très important. Ça n'appartient pas à une théologie. Parce que souvent, quand on parle de ça, les gens ont peur, en disant mais alors, si c'est ça, mais c'est très bon. C'est très grand l'amour de Dieu, parce que c'est très large. Et que nous n'aimons pas à la mesure de Dieu. Et pour être au ciel, il faut élire la mesure de Dieu. Entrer dans cette gravité et dans cette gratitude qui sera le thème de notre année prochaine.
Moi, je trouve qu'il manque juste un petit étage à tout ce que vous avez dit. Je ne vais pas trouver dans le catéchisme forcément les lignes qui correspondent. Moi, je crois profondément qu'au moment où je vais rentrer dans la mort, c'est-à-dire l'instant de ma mort, pour moi comme pour tous les êtres humains, sans exception, dans ce contexte que vous avez très bien décrit de conscience de qui on a été et de grande liberté, la proposition me sera faite de façon ultime, mais universelle, du salut de Dieu. Parce que sinon, je trouve qu'il manque un... Vous n'avez pas dit à quel moment les gens vont... qui n'ont pas connu la foi vont pouvoir la rencontrer.
Cette proposition-là a pu donner une option théologique qu'on appelle l'option du salut dans la mort. Elle a été condamnée par l'Église. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que si vous allez trop dans ce sens-là, les gens vont... ça ne respecte pas l'Évangile qui dit que le salut se fait dans le temps souffert. Et si vous regardez bien l'équilibre de spécialité, l'encyclique du pape Benoît XVI, qui est un des plus grands eschatologues du XXe siècle, clairement. C'est un grand théologien, le plus grand eschatologue du XXe siècle. Il dit qu'il faut tenir cette ligne de crête. Bien évidemment, au moment de ma mort, je vais être mise. Je vais voir un peu. Mais le temps qui m'est donné sur terre, rappelez-vous Matthieu 25, mais quand est-ce que nous avons vu avoir faim, avoir soif? Quand est-ce que, à chaque fois que tu ne l'as pas fait au plus petit d'entre nous, nous rendons la vie. À chaque fois que tu ne l'as pas fait, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. La vie sur terre possède la légèreté de la grâce et la gravité de la liberté. Il faut les deux.
Je suis d'accord avec tout ça, mais il me reste un questionnement hérétique.
Non, bah, c'est, on peut se questionner. D'excellents podcasts ont été mis en ligne sur le site de la paroisse relatif aux catéchèses de l'année dernière, donnés par votre serviteur. Et je crois, donc, Paul, qu'on peut aussi sur Internet trouver vos. Est-ce que c'est libre d'accès ? Les vidéos que vous aviez produites à Montlignon et entrées, il y en a une dizaine, je crois.
Oui, j'ai des conférences.
Même si on a quelques-uns qui ont fuité, donc allez voir Jean-Paul. Voilà, purgatoire. Question cruciale. Merci beaucoup de tout ce que vous avez apporté comme éclairage jusqu'à maintenant. Le temps passe, mais nous allons tout de même honorer alors deux questions seulement. Je ne sais pas exactement combien de questions ont été rapportées par les fidèles de notre.
Bonsoir. Non, mais il y a beaucoup de questions qui s'est déjà répondues, en fait. Donc, après, il y a d'autres qui sont. On a compensé dans ces deux-là. Ça va ?
Ah, elle est arrivée. Ils savent parler à leur brebis. Oh là oui. Alors je pose la première question et puis je déchiffrerai la deuxième ensuite. Ce sont mes yeux qui baissent, hein, c'est pas du tout l'écriture. Première question, est-il normal, entre guillemets, de prier pour que la mort libère un proche qui souffre ? Se saisir de cette question, évidemment.
C'est beau, la question. Ça me fait penser, 2024, c'est l'année de la prière. Le pape l'a voulu, avant l'année de l'espérance de 2025. Prier, ce n'est pas dicter à Dieu ce qu'il a à faire. Notre prière n'est pas ni informative, ni perforative. C'est entrer dans les dispositions des sentiments du Fils. C'est nous disposer à ce que le règne de Dieu arrive et que la volonté de Dieu se fasse. c'est faire que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est ça qui est. Donc, dans la question du nom, mais ce que j'entends, c'est que vous voulez du bien à quelqu'un qui souffre, donc vous voulez soulager quelqu'un. Quant à l'issue, d'autres ont voulu le faire pour Jésus, peut-être pour abréger ses souffrances, mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de la souffrance, parce que c'est dans cette souffrance qu'il nous a manifesté l'amour. Si bien que il ne nous appartient pas de décider, il nous appartient de soulager les quatre souffrances que j'ai dites, il nous appartient pas de décider d'avoir le cœur. Même dans la prière, il nous appartient d'entrer dans la volonté de Dieu. Et pour moi, la prière, c'est surtout ça. C'est pas d'abord. J'informe pas Dieu que le malade est en train de souffrir, parce que Dieu le sait. Je ne dis pas à Dieu ce qu'il a à faire, mais je rentre dans le projet de Dieu sur cette personne. Parce que dans cette personne, il y a quelque chose auquel je n'ai pas accès moi, même si je suis son plus intime. Il y a quelque chose qui est de ça, de son secret. Il y a quelque chose qui est de sa dignité. Et donc je vais la confier à Dieu. D'ailleurs, dans la prière, vous savez, dans le rituel de l'onction des malades, on recommande l'âme à Dieu. Et on la recommande. On ne demande pas qu'elle meure. On recommande l'âme à Dieu. Et l'égalité dans le rituel peut très bien être reçue. Voilà ce que je peux vous dire.
Merci, Don Paul. Autre question, et dernière, celle-ci. Je me suis toujours étonné que l'Église nous propose des préparations au baptême, communion, mariage, sacrement des malades, appelé ici le dernier sacrement, mais pas trop de préparations à mourir. On ne veut pas nous faire peur, en interrogation.
C'est tellement vrai. Merci d'avoir posé cette question.
Oui.
Je rêve que nos EHPAD, nos maisons de retraite, nos maisons de seniors soient justement des lieux que l'Église investisse. Et moi, je demande à mes frères pas de le faire. Pour que ce soit des lieux où on prépare la vie éternelle. Aujourd'hui, quand on est à la retraite, on dit « Ah, maintenant, tu vas pouvoir profiter de la vie. » Ce mot-là, il n'est pas conforme à l'Évangile. C'est le moment où tu dois ajuster ta vie au plan de Dieu. Si nos maisons de retraite, nos EHPAD, étaient des lieux où préparer la fraternité généreuse autour de la pastorale, par exemple du sacrement de l'onction, l'onction des malades, on rappelle l'onction du baptême, de la confirmation pour les prêtres, l'onction sacerdotale. Mais qu'est-ce que ce serait bon? Il ne faut pas, et le pape a beaucoup insisté dans ses audiences sur les personnes âgées, que l'Église ne doit pas délaisser nos frères et sœurs âgés, leur les accompagner. On les a un tout petit peu séparés. Je vous raconte une anecdote. J'ai eu la chance de faire une partie des études à Rome. Et là où j'étais, il y avait des évêques qui venaient me visiter. Il y avait un évêque argentin, mais ce n'était pas Berlioz, c'était un autre, qui est venu me voir. Et qui nous a dit, et il pleurait. Il a dit là, je suis venu voir le Saint-Père, c'était Jean-Paul II à l'époque, parce que les Japonais veulent nous donner dans nos diocèses, où on est très pauvres, beaucoup d'argent, pour pouvoir exporter les personnes âgées du Japon vers mon diocèse. Tout était payé. Et lui, il est venu voir le pape, il a dit, moi, je ne trouve pas la marge de japonais, mais est-ce que je peux faire ça? Et le pape a dit, surtout pas, refuser la paix. On doit séparer les personnes âgées de la vie. On doit aujourd'hui, au contraire, créer des centres intergénérationnels où les personnes âgées côtoient les jeunes, les enfants. Il ne faut pas séparer les personnes âgées des familles. Il faut aider les familles à porter les personnes âgées. Et ça, c'est une conviction des chrétiens. Et de fait, vous avez raison, aider les personnes âgées à préparer la maternité généreuse. Et pas simplement à se distraire ou à, je ne sais pas comment, à se s'abattir parfois, je trouve. Excusez-moi, je suis un peu franc, mais il faut aider ça. Et vous savez ce qui me blesse le plus en ce moment? C'est les autres vieux prêtres. Quand je demande à des jeunes prêtres d'aller visiter les maisons de vieux prêtres, il ne faut pas abandonner les vieux prêtres. Les vieux prêtres, ils sont dans les maisons, alors, elles sont bien, les médicaments et tout ça, mais ils sont tout seuls. Et ils perdent parfois même leur chrétien, leur ancestral. Et ça, on n'a pas le droit. On doit avoir le souci de toutes les personnes âgées, bien sûr, et aussi les vieux frères. Dans une communauté religieuse, les vieilles sœurs et les vieux moines, comme ce qu'on connaît très bien la Médiatra, ils sont pris en main par les frères. Ils font partie de la vie des frères. Ils ne sont pas. Alors, s'ils sont malades, ils ont une chambre particulière, ils font partie de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une mission. Vous avez toutes les raisons, il faut préparer les gens à la tête, il faut préparer les gens au mariage, il faut préparer les jeunes à la confirmation. Mais il faut préparer nos aînés à tout à fait d'accord avec vous.
Moi, je finirai sur une petite promotion, parce qu'au sein du service catholique des funérailles, nous avons mis sur pied une session qui s'intitule Se réconcilier avec la mort, et qui s'est déjà. Qui a été administrée à des centaines de personnes, donc j'ai un peu de recul pour en parler. Donc, c'est trois temps qui sont introduits par une vidéo. L'un sur les rites, l'importance des rites, un deuxième sur le deuil, les deuils de ma vie, et le troisième sur la foi dans la résurrection. Et à chaque fois, et c'est ça qui est vraiment la force de l'intuition de cette démarche, on va travailler en petits groupes, et dans ces petits groupes, on va avoir trois, quatre questions sur lesquelles on prépare ce qu'on va dire, et chacun à son tour va s'exprimer sans qu'on s'interrompe. Et ça, on y tient beaucoup, parce qu'en fait, c'est l'occasion de découvrir combien nous sommes source les uns, potentiellement source les uns pour les autres, sur cette question de la mort, de la résurrection. On a besoin d'abord d'honorer notre propre parole, en osant dire où on en est, par exemple, de nos deuils, de la façon dont on a vécu la mort de nos proches, et puis de réaliser que l'histoire singulière, mais l'histoire sainte de l'autre, peut être une ressource pour moi. Et je vous assure, les gens qui vivent cette session, en grande majorité, en sortent profondément transformés, plus que par les beaux discours, parce que vous savez, les belles paroles, vous en avez entendu ce soir, mais souvent elles glissent, un peu comme l'eau sur les plumes. Mais quand c'est... Parce qu'on va tous mourir, ça, vous le savez, donc on est tous concernés par cette question. Et donc, quand on écoute la parole de l'autre, y compris dans ce cas-là de complètement intime, etc., on va recevoir énormément. Voilà, c'est notre terre commune, notre finitude humaine, c'est ce qui nous fait homme, et c'est ce qu'on peut éternellement partager avec tous les êtres humains, et ça vaut la peine de le rappeler dans un monde qui se disloque manifestement beaucoup ces derniers temps.
Avant de merci infiniment, et avant de passer le micro à notre curé pour qu'il puisse conclure, je signale juste à votre en parlant d'EHPAD et de préparation plus ou moins lointaine, en l'occurrence à la perspective de la mort et à l'au-delà. Et demain, dans l'EHPAD de Le Légat, nous allons donner, au cours de la messe, j'aurai la joie de conférer le sacrement donc sur les malades. Je recommande vivement à vos prières nos aînés qui s'y trouvent, voilà, qui ont, comme ça a été dit, et comme nous le savons, du reste, besoin d'être soutenus, d'être visités, d'être aimés, et aussi de se sentir utiles. Voilà. Donc je les recommande à votre prière. Et ça m'a fait rire tout à l'heure quand Paul disait oui, c'est. Une fois, quand on a atteint un âge canonique, il ne s'agirait pas de se dire maintenant fais-toi plaisir, c'est bon. Il se trouve que dans l'EHPAD en question sont arrivés, je vous dis pour la petite histoire, ça peut être drôle, deux jeunes animateurs qui tranchent par leur fraîcheur et qui se sont mis à initier nos bonnes gens à la boxe et au rugby avec des résultats exceptionnels. Alors, il ne faut pas s'attendre à les voir courir sur le terrain évidemment, mais ils sont profondément marqués par ces séances que ces deux jeunes gens, plein de vie, leur ont envoyé. Tout est possible. Voilà. Et j'espère bien qu'après leur avoir donné l'onction de malade, ils vont nous faire des performances mystiques. Voilà. J'en arrête là.
Bon, un grand merci à nos deux intervenants. J'ai beaucoup apprécié vos interventions et je souhaite que par cette applause, vous avez su aussi toucher le club de nos paroissiens. Donc, un petit cadeau pour vous, pour votre lecture. C'est. Comme ça, vous ne serez pas le seul à Saint-Cloud de ne pas connaître la vie de notre cher fondateur et apprendre un peu l'histoire de la France en même temps. Donc, ça serait. Alors, on vient de faire notre 1500 ans de la naissance de Saint-Cloud et pour l'occasion de tirer cet ouvrage et comme ça, on est partagé avec les scénaristes et aussi votre équipe de service de funérailles. En parlant de livres, on a merci beaucoup le CICRAD de venir ce soir, comme elle fait chaque fois, avec beaucoup de générosité et de disponibilité de vous proposer du livre. De Christian, le parcours d'un vieux chemin de vie, une conversation sur la mort, donc
sur la vie.
Donc ils sont en France, là. Donc vous pouvez bien demander à Christian de le dédicacer. Donc Paul, par contre, il a 2 heures et quelques de route à faire ce soir, c'est ça?
Oui, il y a 2 heures et demie.
2 heures et demie. Donc, il ne faut pas le retenir trop, sinon ils vont se retrouver de nouveau pour préparer les obsèques de Don Paul. Et ce n'est pas exactement ça qui était prévu. Même s'il est déjà plein d'amour, on veut te garder un peu plus longtemps.
Donc, je. Pardon, nous parlons de livres et de Don Paul. Vous m'avez fait part hier, je crois, du fait que vous étiez en train de préparer un livre sur le thème de l'espérance.
Oui, les éditions.
Les éditions du CERN de Bonnondé. Et comme je ne sais pas dire non, j'ai dit oui. Ce qui ne m'arrange pas trop, c'est qu'il faut que je rende mon manuscrit pour septembre. Donc il faut que je lui mette.
Et juste pour vous avez bien entendu ce soir, bientôt on va sortir le disque. De vos chants préférés, un peu de latin, un peu de progresse, bref, voilà, donc un peu de variété. Je vais me mettre aussi, donc.
Je suis déçu parce que je pensais que Christian allait danser, mais il avait que chanter.
Voilà, on va commencer avec les disques. Mais après, juste un petit rendez-vous pour nous, le paroissien. Comme fait de cette espérance, c'est le temps de le rendre aussi, de témoigner autour de nous sans aucune complexe. C'est rendez-vous samedi matin après la messe de 9h30 à 5h30 à 10h pour aller à la rencontre de toute personne qui est faite pour Dieu et pour porter ses mêmes amours et ses espérances. C'est notre matinée d'aller rencontrer les paroissiens. Accueillir, écouter le souffrance, écouter les intentions de prière, de venir ici après à Stella pour prier pour eux et aussi les inviter à participer aux offices de Pâques et aussi à notre soirée qui sera jeudi prochain, le prochain rendez-vous aussi, c'est notre soirée autour du cœur sacré de Jésus. C'est cœur qui brûle de tant d'amour pour nous. C'est le soir de laisser ce cœur nous pénétrer, nous embrasser par sa chaleur de son amour, et après être prêt d'être témoin de cette espérance que ce monde lui nous veut. Ça va. Mais venez pas seul, venez nombreux aussi. Jeudi prochain, samedi, et jeudi. Et je vous propose qu'on se lève pour. Ça va donner la chance sur notre disque. Je vous souviens pour fonder le Vierge Marie, celle qui portait le Christ, notre source d'espérance, de nous aider à intercéder auprès de lui. c'est-à-dire avancer selon ces rendements, sur notre chemin d'espérance. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
Amen.
Bonne soirée à tous.
Yeah.